Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques minutes, je vous proposerai des conversations al dente avec deux auteurs italiens, Roberto Ferrucci et Alessandro Perissinotto. Des conversations animées par Hervé Delouche, écrivain, et Martine Laval, journaliste à Télérama. Conversation enregistrée le 22 janvier lors de la manifestation littéraire populaire et festive Entre les lignes, organisée par le Chanel à Calais. Et puis ensuite, ce sera un tumulte musical pour les 30 dernières minutes de Tumulte. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1059. Jean au micro, salut. Et pour commencer, Robert Wyatt et son interprétation de la chanson Del Mondo du groupe italien Chiesi.
È stato un tempo il mondo, giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte, moltitudini, splendeva, pretendeva molto, famiglie, donne incinte, sfregamenti, facce, pance, gambe, braccia. Riserva di calore, sapore familiare, odore e cavità di donna che crea il mondo, veglia sul tempo, lo protegge. L'avventura concedi compassione ai figli tuoi, glorifichi la vita e gloria sia, glorifichi la vita e gloria è.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Et je vous propose donc maintenant des conversations al dente avec deux auteurs italiens, Roberto Ferrucci et Alessandro Perissinotto. Des conversations animées par Hervé Delouche, écrivain, et Martine Laval, journaliste à Télérama. Conversation enregistrée le 22 janvier lors de la manifestation Entre les lignes organisée par le Chanel à Calais. C'est parti et n'hésitez pas à monter le son.
Eh bien, bonsoir. Merci d'être là pour cette conversation al dente, comme nous l'avons intitulée. Il n'y a pas de traduction de al dente en français. Quand on demande des pâtes, notamment, ou qu'on les cuisine, voilà, on ne va pas chercher à le traduire, mais on pourrait dire, de façon très approximative, on se mettait un peu d'accord pour dire que ça pourrait être avec une idée avec robustesse. Et on va voir avec Roberto Ferrucci et Alessandro Perissinotto que leur manière, dans leur livre, si différent soit-il, de parler de la société contemporaine, de parler du monde, ce qui est un des objets majeurs aussi de la littérature, ils le font avec une vraie robustesse. Donc le titre se justifie bien. Roberto Ferrucci, qui est juste à côté de moi, donc, il est journaliste, il travaille il écrit des articles pour l'édition vénitienne d'Il Corriere della Sera, pour le quotidien Il Manifesto et pour un tout nouveau quotidien, Il Fatto Quotidiano. Il est écrivain, il a écrit un premier roman, Terra Rossa, qui est en 1993, suivi d'autres romans ou textes. Il vient de publier en Italie une biographie romanesque d'un joueur de football de l'AC Milan. Juste un mot là-dessus.
C'est un joueur... mais vous savez que l'AC Milan, c'est l'équipe du président du premier ministre de l'Italie. Et moi, C'est terrible de le dire, mais c'est mon équipe, parce que quand j'étais petit, bon, j'étais fasciné par Gianni Rivera, et voilà. Et je continue à l'être, et alors pour essayer de me nettoyer de cette honte, j'ai écrit cette histoire, c'est pas une biographie, mais l'histoire intéressante, c'est qu'Andrea Pirlo, c'est d'origine Sinti, ça veut dire tzigane. Et naturellement, pour lui, il est interdit de le déclarer. Mais moi, je racontais cette histoire parce que je trouvais qu'un Sinti, un Tzigane, un Gitane qui joue dans l'équipe de premier ministre italien, je trouve que c'est très bien.
Juste, pardon, pour rester dans le foot, Alessandro, qui est de Turin, fait partie d'une équipe de foot. Une équipe de foot un peu particulière.
Oui, ça n'est pas la Juve. Malheureusement, ce n'est pas le Juventus, mais si je suis de Turin, et même pas le Turin qui est en deuxième division, c'est l'équipe des écrivains qui est beaucoup plus en bas dans le rang des équipes de foot. Mais on parle beaucoup sur le terrain de jeu, on discute et parfois les adversaires profitent. Oui, on se dispute et les adversaires profitent de nos faiblesses littéraires pour nous faire de buts.
Voilà, Roberto Ferrucci donc est ici, on va notamment parler de cela ce soir, pour un roman, une fiction parue au Seuil chez Fiction et Compagnie, dirigé par Bernard Comment, qui s'appelle « Ça change quoi ?», qui est paru en avril de l'an dernier. Ça, de toute façon, on va revenir dessus, mais il y a peut-être un livre sur lequel on va dire deux mots tout de suite. Il a publié il y a deux mois, « Sentiments subversifs », une édition bilingue, « Sentimenti sovversivi », qui a cette grande originalité, c'est-à-dire que l'édition et cette publication s'est d'abord faite en France, et que ce livre va sans doute, enfin même plus que sans aucun doute, justement, être traduit en Italie, ce qui est un cheminement qui n'est pas le cheminement habituel, vous vous en doutez, et qui a été publié par la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs de Saint-Nazaire, où tu as fait, je crois, une résidence, mais justement, tu peux nous dire maintenant quelques mots sur ce livre.
Bon, le 18 février 2008, quand je suis arrivé à Saint-Nazaire pour... un mois et demi de résidence, et ces jours-là, Patrick Deville était à la gare à me chercher. On est allé boire un verre, et quand on a fait le chin-chin, il m'a dit, bon, à ton arrive, et à Alain Robrier qui nous a laissé aujourd'hui. Et moi, je ne savais pas parce que j'étais en voyage. Et cette chose m'a beaucoup touché parce que j'arrivais en France pour la première fois, pas comme touriste finalement, mais pour pratiquer mon métier, ça veut dire écrire. Et je trouvais ça un signe. Et donc, le jour après, j'ai commencé à écrire cette histoire, qui c'est un roman qui se passe entre Saint-Nazaire et Venise. Il y a des liaisons que je trouvais entre Saint-Nazaire et Venise. Et c'est un roman que j'avais envie de publier surtout ici et peut-être seulement ici, parce que c'est un livre, c'est un regard vers mon pays d'aujourd'hui et mon dégoût pour mon pays aujourd'hui. J'avais l'idée vraiment de le laisser ici et c'est une histoire pour le lecteur français mais pour le lecteur italien parce que bon, le livre est soit en français, soit en italien. Mais moi, je croyais qu'il n'y avait pas des éditeurs en Italie qui avaient envie de publier ça ou le courage. On se pose toujours des questions, des problèmes de quand on parle de quelque chose qui va contre le mainstream, non, contre les pensées imposées, non? Mmh. Mais enfin, il y a deux éditeurs qui ont envie de le faire. On verra qui va le faire, mais bon. Mais le livre existe déjà, et pour moi, c'est déjà mon roman, voilà.
Alessandro Perissilotto, tu es turinois, comme on le sait déjà par le football. Un mot, parce qu'on en parlait, mais tu as failli travailler à la Fiat avant l'écriture et d'autres choses.
Oui, oui. En tant que turinois de famille ouvrière, mon destin était le destin de tous les Turinois de l'époque, de tous les Turinois du milieu ouvrier, donc pas de lycée, parce que le lycée c'est pour la bourgeoisie. J'ai fait l'école technique, ça s'appelait École Edoardo Agnelli. Agnelli était le patron de la Fiat. L'école Edoardo Agnelli était située en Corso Agnelli, boulevard Agnelli, à côté de la Fiat, des usines les plus grandes de Fiat, les usines de Mirafiori. Et bon, c'était presque certain qu'en sortant de là, on passait à la porte d'à côté et on entrait dans les usines. Mais j'étais tellement, je te disais, j'étais tellement nul dans les matières techniques qu'ils ont refusé de m'embaucher. Et j'ai fait l'ouvrier ailleurs parce que qui ne travaillait pas pour la Fiat, travaillait pour des usines qui travaillaient pour la Fiat. Maintenant, les choses ont beaucoup changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Et heureusement, l'école technique de la Fiat donnait quand même l'accès à l'université. Alors, après quelques années de travail, j'ai eu le moyen pour me payer l'université et j'ai fait ce que j'avais envie de faire depuis l'adolescence, c'est-à-dire j'ai fait ma fac de lettres et tout en travaillant parce que et voilà, je suis heureusement je suis pas au chômage comme une partie de mes collègues de l'école et heureusement maintenant je ne sais pas si en France vous l'avez su mais le PDG de la Fiat, c'est pas le patron mais c'est le manager principal a dit, bon, si vous n'acceptez pas mon contrat, ma proposition de contrat, en Italie comme en France, il y a des contrats nationaux. Et si vous n'acceptez pas mon contrat, qui est différent par rapport au contrat de métallurgiste, je déplace la Fiat au Canada. Et une certaine partie de mes collègues, ceux qui n'étaient pas nuls, maintenant sont au chômage ou ils risquent le chômage. Moi que j'étais nul, parfois être nul ce n'est pas si mal que ça.
Donc Alessandro Perissinotto, il est universitaire, sémiologue, il est psy des chroniques et pour notre bonheur, puisqu'il n'a, bon, voilà, il n'a pas rejoint la Fiat, mais il est écrivain. Une série de romans qui ont été publiés depuis 2003-2004 en France, d'abord publié par l'excellente petite maison lyonnaise, je crois, La Fosse aux Ours, où sont parus la chanson de Colombano et Train 8017, des titres qui ont été repris en folio. Et puis, ensuite, plusieurs romans à la série noire, dont À mon juge, qui a un titre, et ça on en reparlera plus tard, mais qui fait écho à un livre de Georges Simenon, voilà, qui est cher à Alessandro. Et puis, vient de paraître, à la série noire chez Gallimard, La dernière nuit blanche, qui est la deuxième, je crois qu'en tout cas la suite des aventures d'une enquêtrice, un personnage récurrent. Tu peux dire deux mots de cette enquêtrice?
Oui, c'était la première fois...
Anna Pavese.
Anna Pavese. C'était la première fois que j'avais envie d'écrire une série, une trilogie, à vrai dire, une vraie série. Et j'ai pensé de construire un personnage au féminin, parce que pour moi, écrire, c'est quand même expérimenter les vies des autres. Tout comme lire. Quand on lit, on prend un roman et on emprunte pour une semaine ou pour trois jours la vie d'un autre. Et j'avais envie de voir qu'est-ce qui c'était ma vie, dirait au féminin. Le personnage n'est pas autobiographique, c'est pas moi. Je fais un petit passage dans le roman. Et je suis l'ex-mari de Anna Pavese, ce qui, quand elle a besoin de lui, il n'est jamais là, il est toujours à jouer au foot.
Stéphane.
Est une enquêtrice psychologue, mais une psychologue sociale qui travaille dans les services sociaux, qui travaille avec les drogués, qui enquête surtout sur la société et sur le niveau caché de la société. De plus en plus, la société italienne est complètement cachée. Et je sais que c'est difficile à croire. Chaque fois que vous entendez parler un écrivain italien, il parle mal de son pays. Je crois que vous, dans les derniers 10 ans ou 20 ans, vous n'avez jamais entendu parler bien de son pays en italien. Je crois que Roberto est d'accord avec moi. Je vous invite à regarder l'Italie comme un expériment très bien réussi de formatage social et mental. Et seulement quand on est à l'étranger, on a vraiment, je ne dis pas le courage, parce que il ne faut pas avoir de courage, mais on comprend les différences. Quand on est en Italie, on est caché avec tous les autres, mais quand on passe les Alpes et on regarde de l'autre côté, on se dit bon, notre pays est un pays complètement perdu. Et Anna Pavese cherche d'inquiéter dans des petites histoires, mais sur ce pays qui est perdu.
Juste une petite question, Alessandro, pourquoi tu as choisi ce nom
Parce que c'était ma voisine à Bergame. J'habitais Bergame pendant des années et ma voisine s'appelait Anna Pavese. Et ce personnage de la voisine, qui avait, à l'époque avait 90 ans, je crois, tandis qu'Anna Pavese est beaucoup plus jeune. À propos des noms de personnages, j'essaie toujours de choisir le nom de la région ou de l'époque. Quand j'ai des personnages français, par exemple, je cherche sur Télérama. Et j'avais besoin, à mon juge, d'une jeune femme de 30 ans. Et j'ai regardé les pages de la musique, il y avait une certaine Élodie qui me semblait parfaite. Elle avait 30 ans et alors le personnage s'appelle Élodie. Et dans le même roman, il y a une actrice porno et qui vient de Belgique, de Flandre. Et alors j'ai demandé à mon éditrice hollandaise de me donner des noms, et j'expliquais qu'il s'agissait d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui faisait l'actrice porno, mais évidemment il n'y a pas de nom a priori pour les actrices porno. Elle m'a envoyé un fax à la fac, au secrétaire de la fac, voilà les noms de tes actrices porno. Et alors, depuis cet épisode-là, je cherche sur Internet les noms de mes personnages.
Alors, on va parler de vos deux livres. Ils ont pour point commun d'être l'un et l'autre un retour sur une ville qui est confrontée à un événement fort de la dernière décennie. C'est Turin envahi, mais au sens, enfin, envahi par les Jeux Olympiques de 2006, c'est cela, dans La dernière nuit blanche d'Alessandro Perissinotto, et c'est, dans le roman de Roberto Ferrucci, Ça change quoi ? C'est un journaliste, reporter, qui a couvert le G8 qui avait eu lieu à Gênes à l'été 2001, marqué par plus que des violences policières, et qui s'était terminé soldé notamment, en dehors de très nombreux blessés, par la mort du jeune manifestant Carlo Giuliano. Parlons de la genèse de ce livre, Roberto.
Moi j'étais là en 2001, et j'étais là exprès pour. Bon, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais je vous le dis, et à Gênes 2001, c'était la suite de Seattle. C'était un moment vraiment qui était attendu comme le plus important pour le mouvement altermondialiste. Donc c'était un mouvement qui comprenait vraiment une énormité de points de vue, d'organisation, non, et pas seulement de gauche. Non. Et enfin, là, à Gênes, on a eu, avant les derniers jours où il y a eu la guerre, on a eu des rencontres très importantes, on a eu des débats, des prix Nobel qui ont parlé de que un autre monde est possible. Non? Et à Gênes, les metteurs en scène, le musicien avait décidé d'être là. Ça veut dire que moi, j'ai vu Mario Monicelli, qui était déjà très vieux là à Gênes, qui bougeait par Gênes avec une petite vidéocaméra. Il y avait encore Gillo Pontecorvo qui était là, la bataille d'Algérie, non? Et il y avait des importants metteurs en scène plus jeunes. Il y avait Giovanotti, il y avait Bono de YouTube qui était là. Mais les écrivains ne parlaient pas de ça, non? Il y a eu seulement un article quelques jours avant d'Antonio Tabucchi, mais je ne sais pas pourquoi, non, les écrivains n'étaient pas là. N'étaient pas là, organisés et présents comme groupe d'intellectuels. Et bon, enfin, je me suis dit, j'ai envie d'y aller, et je parlais avec le directeur du journal où je collaborais à l'époque, et j'avais dit que j'avais envie d'aller là et raconter ce qui passait. Et bon, je suis allé avec une vidéocaméra aussi, et j'étais libre de raconter ce que je voulais. Je n'avais pas j'étais pas obligé à faire la chronique, à suivre les débats de grands jésuites, parce que bon, comme écrivain, on a, non, la chance d'être libre, même au moins avec l'écriture. Et bon, je fais des reportages. Mais c'était évident que moi, j'avais aucune idée de à certain moment de raconter de blessés, de la mort, de la peur de mourir, d'être tué. Parce qu'à Gênes, en 2001, tous les gens qui étaient là ont essayé le même jour. C'était vraiment une peur collective d'être tué. parce qu'il y a eu une violence incroyable qu'on n'a jamais eue en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et à Gênes, la police, les gaz de la police étaient des gaz qui sont interdits en guerre, mais qui ne sont pas interdits en Italie pour des événements comme ça. Et les gens ont respiré ce qu'ils ont respiré. Il y a de policiers encore aujourd'hui qui ont porté plainte aux États parce qu'ils ont des problèmes de santé, de respiration. Voilà. Et donc à la fin, je me suis trouvé là à témoigner ça. Et quand je suis rentré, un éditeur m'avait appelé, m'avait demandé de... Il avait lu les reportages que j'avais écrits. Il m'avait demandé de faire un recueil, tout simplement. Mais moi, je n'avais pas envie de faire un recueil de reportages. Ce n'est pas mon métier. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais réfléchir un peu. Et j'ai envie, éventuellement, d'écrire un roman. Mais je ne savais absolument pas comment. Et bon, j'ai passé l'été à relire, à regarder les images, mais c'était impossible encore d'écrire parce que la colère était encore très très forte. Elle sortait sur la page et c'était pas de la narration, c'était pas un roman, c'était la colère. Alors, peu à peu, je me suis libéré des gaz et de la colère et enfin, j'ai trouvé une clé, et c'est une clé, la clé narrative que je ne trouvais pas, c'était la plus simple en effet, c'était raconter comment les gens étaient là, non? Avec son expérience, avec sa vie, avec la simplicité des gens qui demandaient seulement d'avoir le droit de parler, de dire qu'un autre monde est possible, non? Et c'est passé ce que c'est passé, et enfin, après 6 ans d'écriture, de pause, de doutes, enfin le livre est terminé, est sorti, et c'est une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui me rassemble un peu, en effet, qui va là pour raconter les événements et qu'il va là quelques jours après avoir quitté la fin de sa vie, sa compagne. Et alors l'idée narrative, c'est de mélanger et voir que ce qui se passe quand tu mélanges l'histoire avec la H minuscule avec l'histoire avec la H majuscule. Et enfin tu vois que l'histoire avec la H minuscule, c'est rien. Et surtout, j'avais envie, en effet, c'était de plusieurs temps que j'avais envie de raconter comment on devient... Vous savez, non, quand vous quittez ou quand vous êtes quitté, il semble que toute la malchance du monde tombe sous toi. Non? On le voit quand il y a des amis qui se quittent et qui t'appellent, qui disent « Ah, je souffre énormément, c'est terrible, c'est terrible. » Non, et tu dis « Mais... » C'est normal, c'est la vie. Mais quand il tombe sur toi, c'est la même chose. C'est pareil. Ah, écoute, c'est terrible. Alors, je crois que là, c'était une possibilité de la raconter dans un cadre tellement fort et tellement énorme que je vais trouver un néologisme. C'est dit néologisme. C'était le quittement. Et c'est une histoire d'amour, enfin, c'est un amour qui termine et un amour qui commence et qui est une sorte l'étincelle, c'est-à-dire le clic de cet amour, c'est le survivre. Non, dans le bordel, excuse-moi, de Gênes, il y a le protagoniste qui embrasse une jeune fille, et là, c'est vraiment réagir à la peur d'être tué. Ces deux histoires qui c'est Kouaz, et c'est lui qui devient un gène depuis des années, à voir ça, qu'est-ce qui s'est changé, ça change quoi, sans point d'interrogation, parce que parfois rien ne change.
Alors, on va faire du G8 au JO, mais Roberto, moi j'aimerais justement que tu nous expliques comment tu as travaillé l'écriture, la narration de ton livre, parce qu'en même temps tu mêles donc deux histoires, la petite histoire et la grande histoire, et qu'est-ce que tu as fait de la violence, de ce que tu avais à raconter en tant qu'homme amoureux malchanceux et en tant que citoyen qui regarde ce qui se passe à Gênes, comment tu as traité la violence et comment tu as construit ton texte justement?
Oui, ça c'était un autre problème au début, parce que Gênes a été le premier événement tragique digitalisé. Ça veut dire qu'il existe milliers et milliers de heures de petites vidéocaméras qui ont tourné tout ce qui s'est passé à Gênes et en images vidéo. Parce que c'était un moment d'un petit paradoxe, ça veut dire qu'en 2001, le caméra, l'appareil photo digital était encore très faible, mais il y avait déjà la vidéocaméra, la petite vidéocaméra vidéo. Alors, on a une énormité de vidéos et moins de photos. Alors, à certain moment, moi, je me suis dit que j'avais besoin de filtres pour raconter la violence. Et en effet, le filtre, c'était les images. Le narrateur travaille avec les images, il va à Gênes dans un hôtel, il s'enferme dans un hôtel après des années avec son ordinateur où il regarde encore les images de Gênes 2000 ans et ça c'est un filtre. Un autre filtre c'est la distance chronologique, ça veut dire après des années. Un autre filtre, c'est un filtre hauteur. Ça veut dire que lui, il va au 9e étage d'un hôtel où il voit le port de Gênes et il regarde la ville qui est en bas pour comprendre si elle est encore comme en 2000 ans ou pas. Un autre filtre, c'est la map qui est sur son lit et où il fait...
Le plan.
Le plan, oui. Excuse-moi, la carte. Et où il fait des petits dessins pour arrêter le moment important qu'il lui a vécu il y a des années. Et j'ai utilisé plusieurs filtres parce que vous savez, les images ont une puissance énormément plus forte que l'écriture. Et alors, pour raconter un événement si vous allez sur Internet, vous trouvez toutes les images de Gênes. Pour raconter une histoire, j'avais besoin de quelque chose d'autre et qui m'a aidé. Ça veut dire que les filtres, ces filtres-là, et raconter aussi comment les images ont... lui, le narrateur, dit que les images... sont importants pour lui, pour l'écriture. Et c'est ce que je fais, même dans Sentiments Subversifs, c'est comme ça. On a parlé ce matin avec Alessandro que tous les deux, on prend des notes visuelles, désormais. Non, moi, si je ne peux pas prendre des notes avec le stylo, je prends des photos et après je travaille sur les photos. Voilà.
Alors Alessandro, du G8 au JO, effectivement, on est donc en février 2006 et Anna Pavezzi, qui vit à Bergame, qui maintenant s'occupe de recherche de personnes disparues, est appelée par une ancienne amie, collègue de Turin pour rechercher justement une fille qui travaillait dans l'aide aux toxicomanes dans un camping-car. Dans un camping-car qui d'ailleurs est un peu mis à la frontière de cette ville qui est tout entière réaménagée dans la festivité olympique. Tu peux nous parler de ça?
Oui, oui. Pendant que Roberto parlait, je pensais qu'il y a des points en commun entre nos romans
Et en particulier le rapport entre le public et le privé, entre la grande histoire et la petite histoire personnelle. Et moi, j'ai essayé de faire une opération différente, c'est-à-dire j'ai pouvais raconter une histoire privée qui est influencée par l'histoire publique. J'ai essayé de raconter comme l'idéologie courante n'est pas seulement berlusconienne, mais qui que dans Berlusconi trouve son prophète, c'est-à-dire l'idéologie de l'image, change la vie des gens et change les villes. Donc Turin est une ville avec une administration de gauche, si on peut encore dire gauche, et surtout s'il y a encore en Italie une gauche digne de ce nom-là. Et pendant les Jeux Olympiques, la ville a changé d'une certaine façon, d'une façon très positive, mais ils ont vraiment fait un coup de balai et tout ce qui n'était pas conforme a été repoussé vers la frontière. C'est-à-dire que le camping-car d'aide aux toxicomanes, qui était là où il servait, vous savez, on l'appelle en Italie, on dit limiter les dégâts. Donc avec certains toxicomanes, on n'a plus l'espoir d'arriver à une situation de normalité. Il s'agit seulement de limiter les dégâts, d'éviter qu'il attrape le sida, d'éviter qu'il se tue avec... Et alors, ce camping-car distribue des seringues, distribue des préservatifs aux toxicomanes qui se prostituent. Et là, il faut que le camping-car soit là où ça sert. Bon, pendant les Jeux Olympiques, le camping-car a été déplacé vers la banlieue, vers là où il n'y avait pas de toxicomanes. Mais l'administration de gauche a fait bien pire. Les enfants étrangers sans parents qui vivent dans des communautés ont été enfermés dans les communautés. C'est interdit parce que les communautés ne sont pas des prisons, sont des espaces libres. Les malades mentaux ont été enfermés, tandis que d'habitude, depuis les années 80, depuis le début des années 80, les hôpitaux psychiatriques ne sont plus fermés, et il y a des communautés. Bon, pendant les Jeux Olympiques, ils ont été enfermés. Alors, qu'est-ce que c'était Turin? C'était une ville fantastique, une sorte de Disneyland, où les gens ne faisaient que s'amuser. Et ça m'a rappelé les discours de mon père. Mon père est né dans les années 30 et me racontait que quand le Mussolini venait à Turin, Mussolini n'a jamais aimé Turin, comme Berlusconi n'a jamais aimé Turin, parce que c'est une ville qui n'a jamais été ni fasciste, ni fasciste de la façon berlusconienne. Mais quand Mussolini venait à Turin, la police, 3 jours avant la visite, faisait le ménage et tous les contestateurs, tous les oppositeurs venaient incarcérés en garde à vue pendant 3 ou 4 jours. Et bon, et pour les Jeux Olympiques, c'était la même chose. Il fallait pas déranger Coca-Cola, il fallait pas déranger McDonald's, qui étaient les vrais patrons de la ville avec leur grand pavillon qui poussait comme des champignons de soir au matin. Bon, alors j'ai essayé de raconter l'idéologie de l'image à travers une histoire, une enquête. Une jeune fille est portée disparue. Pourquoi? J'ai essayé de décrire le monde de la toxicodépendance, qui est encore de l'héroïne, qui est encore une sorte d'enclave parmi vous savez que l'héroïne n'est plus à la mode. Il y a des choses beaucoup plus branchées que l'héroïne, mais
les toxicomanes de l'héroïne sont encore un groupe très, très en danger. Alors j'ai essayé de raconter les derniers parmi les derniers, et avec le regard d'Anna Pavesi, avec le regard de tout ce monde qui se plonge sur les derniers et qui, à la fin, on dit « burn-out », je ne sais pas si en France...
Ça commence à venir, ce mot.
Oui, ça vient du monde anglo-saxon, évidemment. « Burn-out », c'est « j'en ai marre ». C'est surtout un problème des professions médicales, des professions de l'aide à la personne, qui... bon, ces professionnels-là, souvent, n'arrivent pas à avoir des résultats. Ils sont souvent déçus parce que tu travailles avec un toxicomane pendant des années, il continue et il revend les méthadones pour acheter la drogue, et il va se prostituer. Donc, et j'ai raconté même l'autre côté, ceux de l'aide à la personne, qu'en Italie, les professions de l'aide à la personne sont vraiment... Bon, les écrivains sont pires de ça au niveau social, mais...
Ça n'est pas valorisé.
Oui, ça n'est pas valorisé. Et alors, j'ai essayé de raconter les derniers parmi ceux qui soignent les derniers.
Tu pourrais nous dire pourquoi, quand tu écris ces romans, cette histoire, tu as fait le choix de faire... du polar ou du roman noir? Tu aurais pu faire un roman classique, publié dans une collection blanche, comme on dit. Là, tu as fait le choix du noir. C'est un point de vue narratif, c'est un point de vue politique.
Écoute, j'ai jamais vu des frontières nettes entre la noire et la blanche. Maintenant, j'ai fait deux romans qui ne sont pas encore sortis en France, mais qui ne sont plus du noir. Mais est-ce qu'ils sont vraiment différents par rapport au premier roman? Oui, je n'ai plus une enquête. Mais c'est la seule différence. Mais quand on enquête, dans l'avant-dernier, j'enquête dans l'histoire de l'Argentine, de la dictature argentine, j'enquête... dans les responsabilités de l'Église catholique dans la dictature. J'enquête, je veux que... C'est le ramage ou quoi à parler de franc-maçon? Non, c'est... Bon, le dernier numéro de...
J'ai pas eu le temps de lire avant de lire.
bon, les francs-maçons italiens ont aidé Videla, Massera, les grands bouchers de la dictature argentine, ont été tous aidés par les francs-maçons italiens. Parmi les francs-maçons, l'ammiraglio Massera, un des chefs de la dictature, avait été inscrit à la loggia P2, exactement comme Berlusconi. Et exactement comme le président du Salon du Livre de Turin. Et c'est pour ça que l'année dernière, mon livre a été refusé au Salon du Livre. Berlusconi est de droite, le président du Salon du Livre est de gauche. J'ai fait un article sur le même journal, Il Fatto Quotidiano, et tout le milieu intellectuel de gauche a dit « ça, ce n'est pas juste ». Et elle l'a dit au président. Elle dit, ce n'est pas juste ce que t'ont fait. Ce n'est pas juste que Perissinotto parle mal de toi. Non, la gauche, là, vraiment, a fait... l'a soutenue et d'une façon épouvantable. Eh bien, alors, est-ce que c'est de noir, c'est de la blanche? Dans mon dernier roman... C'est une histoire d'amour. Je parle de la Lega Nord, de la Ligue du Nord, le parti raciste du nord de l'Italie, qui est maintenant le deuxième parti en Italie. Et je parle de ça. Est-ce que c'est de la noire
je crois que oui, que la politique appartient de droit à la série noire. En Italie, en France aussi, je sais, parfois. Donc, est-ce qu'il faut encore distinguer hein, entre la littérature et le polar? Quand on parle de la société d'aujourd'hui, on parle souvent de crimes, même s'il n'y a pas le commissaire Maigret qui va enquêter. Donc, je crois qu'une littérature sociale aujourd'hui est une littérature policière sans commissaire.
Roberto Ferrucci, Alessandro Perissinotto, conversation al dente avec ces deux auteurs italiens, conversation animée par Hervé Delouche, écrivain, et Martine Laval, journaliste à Télérama. Entre les lignes, manifestation organisée par le Chanel à Calais, c'était le 22 janvier. PFM 99.9, libre et sans pub.
Rapidement donc, mais on parle depuis l'ouverture de ce festival à plus d'un titre, ces rencontres, voilà, c'était dit dans un sens festif et littéraire. On parle évidemment de l'écriture et de l'importance que pour les écrivains, comme pour nous tous, pour nous accompagner, pour nous aider à vivre, à ce que nos cœurs battent, il y a de la lecture. On aimerait savoir quelles sont les lectures déterminantes pour vous. Roberto Ferrucci, je sais qu'il y a eu l'importance du nouveau roman, puisque Sentiment subversif s'ouvre sur un texte qui parle de cela.
Mm-hmm. Oui. Bon, je crois que vous savez qu'en Italie, nous, on a une tradition romanesque, comme en France, ou comme en Allemagne, en Angleterre. Nous, on a seulement, non, en 1800, on a Promessi sposi, et voilà. Et donc, il faut que chaque fois, un écrivain se construit un parcours, non? Et les parcours sont les plus différents. Et alors, pour moi, oui, c'est le nouveau roman, c'est Flaubert, c'est Italo Svevo, qui enfin n'est pas un auteur italien parce qu'il avait une formation allemande. Et beaucoup des écrivains italiens aussi, mais des écrivains italiens du 900, ça veut dire Italo Calvino naturellement. Et après Daniele Del Giudice, qui pour moi a été un écrivain très important. Et Antonio Tabou, mais surtout, je crois que je peux dire qu'on appartient à une génération qui commence à être plus une génération qui a vu plutôt que lu. Ça veut dire que pour nous, le cinéma et la télévision a été aussi, le foot naturellement, a été aussi, de ma part, il y a certains films qui sont juste à côté de Kafka et de Italo Svevo. Même le cinéma, oui, c'est un peu ça. Je ne peux pas dire, si je dois dire seulement un écrivain, alors je dis, bon, Italo Calvino.
Même pour moi, la question est difficile. Je peux dire que j'ai pris quelque chose à un certain auteur, quelque chose je l'ai emprunté à un autre auteur, au nouveau roman, bien sûr. Je venais de raconter à Roberto ma rencontre avec Alain Rogrier à Turin. Je sortais de l'université, c'était 11h le soir, j'avais travaillé, c'était le premier jour de mon travail à l'université de Turin, donc j'avais travaillé comme un fou, et je vois Solia, c'était l'organisateur, un des plus puissants organisateurs des manifestations littéraires en Italie. Maintenant, il est en taule, parce qu'il organisait... Et,
à l'italienne.
À l'italienne, donc. Et qui est professeur de littérature espagnole, même s'il ne parle pas espagnol. Et il était avec Alain Rogrier. J'avais des tas de questions à poser à M. Rogrier, et M. Soria, qui était avec lui,
Regarde Alain, les peones, les pauvres types de l'université qui sortent à 11h le soir pour travailler. Et je suis resté muet. Et avec tout ce que je voulais demander à propos de nouveau roman, j'ai dit bonsoir, je suis un pauvre type de l'université et je m'en vais. J'étais à vélo. Et vraiment le pauvre type complet. Et, mais je sais que à Camus, j'ai rencontré l'idée d'aller chercher qu'est-ce qui passe dans la tête d'un peureur par hasard. Dans l'étranger, à Simenon, je cherche de voler les atmosphères. Il y a des choses comme les péniches sur les canaux que je trouve ravissant et que je cherche. Mais en Italie, on n'a pas de canaux, donc c'est difficile, on n'a même pas de péniche. Et c'est pénible de placer une péniche à Venise, oui. Ouais.
Et il y a une maison sur l'eau dans La dernière nuit blanche qui joue un rôle important.
Oui, mais
tu y arrives très bien.
Mais c'était une vraie maison, c'était vraiment là, après l'administration de Gaulle. Là. Et donc, il y a pas mal d'écrivains auxquels je dois beaucoup. En Italie, en plus, il y a le dialecte. Et l'utilisation du dialecte. Donc il y a des écrivains, notamment Luigi Meneghello, qui ont écrit en italien et en dialecte, tout comme Camilleri aujourd'hui, mais la chose a commencé beaucoup plus loin. Et donc ce mélange de langue nationale et du dialecte, et ce sont mes points de repère.
Eh bien, c'est à vous. S'il y a un micro qui se balade, si vous voulez...
Moi, j'aimerais que tu creuses ce que tu as appelé le dégoût de l'Italie.
Mm-hmm. Alors, je te lis la quatrième de couverture de mon nouveau roman. Et j'essaie de la lire en français. J'aurais voulu écrire une histoire d'amour quand j'ai commencé ce livre, la première fois que je suis arrivé ici. Mais aujourd'hui, c'est impossible, je crois, pour un écrivain italien, d'arriver à s'abstraire de la sensation de répulsion de la vulgarité généralisée qui est aujourd'hui la carte de visite de mon pays. Et c'est compliqué, c'est difficile. Alessandro a dit que quand on passe la frontière, on regarde derrière nous et on voit le désastre, que c'est surtout un désastre moral, non? Il y a aussi le désastre de la mafia, mais c'est un désastre moral, non? Et la chose plus compliquée, c'est, selon moi, c'est essayer de raconter ça. Et avec la certitude que quand tu essayes de raconter ça, et c'est très très compliqué, la certitude que c'est presque inutile, même si tu fais des efforts... Alors, non, écrire des livres, mais en même temps, écrire dans les journaux. Moi, dans les journaux, j'ai écrit exactement ce que j'ai dit. Mais on se rend compte que ce sont des mots au vide, non? Et on pouvait dire plusieurs choses sur la mystification des mots en Italie, non? En Italie, le mot « liberté » a totalement changé son identité, non? Le parti de Berlusconi s'appelle... peuple de la liberté, quelle liberté et quel peuple. Et donc, c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. Et c'est difficile se réveiller et avoir la lucidité de raconter ce cauchemar, non? Et surtout, c'est impossible de prendre une camomille la nuit et essayer de dormir et de ne pas faire le cauchemar.
Juste avant, Alessandro, que tu répondes également, je pense que c'est le moment aussi, parce qu'on a parlé de ce qui t'est arrivé à ce salon du livre de Turin. Juste avant de venir ici, Roberto nous a envoyé un texte qui s'appelle Fahrenheit 451 à Venise, dont je pense pour préciser les choses par rapport à ce qu'il dit, à son dégoût, mais aussi... à la censure, enfin je le laisse parler, qu'il, et puis Alessandro réagira, mais qu'il vous raconte de quoi il s'agit. Ça se passe maintenant.
Oui, ça s'est commencé lundi, ça veut dire cette semaine. À Venise, il y a... Alors, l'administration de Venise, c'est l'administration de centre-gauche. Mais en Italie, on a, je crois que même en France, le commune et après la province. La province de Venise, c'est de la droite. La présidente, c'est un président de la Ligue du Nord, que c'est un parti raciste, vulgaire, ignorant, un désastre total. Et l'attaché à la culture de la province de Venise, c'est un ancien fasciste qui est encore fasciste parce que son idée était d'interdire dans toutes les bibliothèques de la province de Venise, le livre des écrivains qui ont signé l'appel en 2004 pour Cesare Battisti. Et pas seulement ça, parce qu'il y avait aussi une menace qui disait « Nous, on ne peut pas obliger les bibliothécaires à faire ça, mais ceux qui ne le font pas, comment on dit en français, doivent faire attention. » Bon, ça c'était le début. Naturellement, on a réagi comme on peut. J'ai écrit tout de suite un article. Le Conseil de Bersaglio, le cible, le plus attaché, c'était Tiziano Scarpa, un écrivain de Venise aussi, qui a gagné le prix Strega, ça veut dire l'équivalent, avec toutes les différences possibles, du Goncourt en Italie en 2009. Et lui aussi, il a écrit un article. Et on a, enfin, il y a eu un peu de réaction, mais la réaction, c'était seulement dans le milieu intellectuel. Et on a obligé l'attaché à la culture à reculer. Il a dit, non, c'était une provocation, mais il faut provoquer, parce que le jour après, on croyait que c'était fini, le jour après, l'attaché à l'école de la région de Venise, ça veut dire encore plus important, a dit non, moi j'interdis les livres des écrivains qui ont signé l'appel dans toutes les écoles de la Vénétie. Et elle a souligné ça très fort. Et enfin, plusieurs bibliothécaires de la Vénétie on fait outing, je ne sais pas comment dire en français, ont témoigné qu'ils sont déjà des mois qu'ils ont des ordres qui ne sont pas publics, mais qu'ils arrivent, d'enlever dans le rayonnage des bibliothèques le livre de Roberto Saviano, le livre de Marco Travaglio, le livre de Gian Antonio Stella, le livre de moi. Et les livres sont dans les catalogues. Vous savez, le livre de Roberto Saviano, c'est...
Gomorra.
C'est Gomorra qui a vendu 2 millions d'exemplaires plus ou moins en Italie. Il y a des gens qui ont demandé les livres et les livres n'étaient pas là. Le livre est dans les catalogues, mais pas là. Alors, nous, on a trouvé ça énorme. En venant à Calais, en arrivant à Calais, dans le train, je me suis dit, bon, j'écris une lettre à mes amis français, des amis écrivains, journalistes, critiques, traducteurs, éditeurs, et j'ai écrit Fahrenheit 451 à Venise. Et j'ai dit surtout, attention français, parce que l'Italie, c'est juste à côté, et ce virus-là n'a pas de frontières, Et la chose qui m'a plus touché, c'est que j'ai eu une énormité de réponses qu'on n'a pas eu en Italie. Moi, demain, je vais à Paris et à partir de lundi, j'ai des rencontres avec des journalistes, des écrivains. Alors là, je me suis rendu compte de vraiment qu'en Italie, on est désespéré. Moi, je m'attendais aussi à une réaction de lecteurs parce que les vraies victimes sont les lecteurs qui n'ont plus le droit et la liberté de choisir quoi lire, non? Moi, j'ai écrit naturellement dans mon article que moi, dans ma bibliothèque, il y a Céline, il y a Ezra Pound, il y a D'Annunzio. J'ai vu il y a quelques jours chez un bouquiniste, Mein Kampf de Adolf Hitler, je ne me suis pas indigné. Il est là, quelqu'un veut le lire, c'est intéressant aussi. Non. Alors, là, c'est vraiment le début, et selon moi, ça, c'est le début du post-Berlusconi. Ça veut dire qu'après Berlusconi, en Italie, on a ces politiciens-là qui sont ignorants totalement, qui n'ont aucune idée de l'histoire, des droits de l'homme. Alors là, je sais que je suis pessimiste, j'espère que je me trompe naturellement. Alexandre. Mais la Vénétie, c'est l'atelier de tout ça.
Je crains que tu ne te trompes pas. Et pour donner la mesure de la vulgarité de notre classe politique, il y a un nouveau parti en Italie, on avait vraiment besoin d'un nouveau parti, qui s'appelle les Azzurri Italiani, donc azur est la couleur de Berlusconi, donc il est un parti près de Berlusconi, et le président de ce parti a fait une campagne avec des grands panneaux, avec des vulgarités explicites, sexuelles. Donc le symbole du parti est une ronde avec une croix, donc une balle. Et le premier panneau a été « Nous avons » et il y avait deux rondes et « Nous avons les couilles ». Bon, deuxième panneau, et il y a un double sens qui est un peu difficile à expliquer. Coup de balai, le même sens en italien et en français. Coup de balai, si dice colpo di scopa, et scopare en Italie, ça veut dire baiser. Donc, on voit sur le panneau le président de ce parti-là avec un balai à la main, un grand écriteau. Scopiamo, en français, ça veut dire on baise. Bon, et tu, président d'un parti, tu regardes tes électeurs et tu dis on baise. Et tu dis nous on a les couilles pour changer la politique. Nous on a les couilles. J'ai écrit un article sur la stampe et j'ai dit on a marre des gens qui ont les couilles. Même les hommes ont les couilles. Même les taureaux ont les couilles. Nous on veut des gens qui ont de la tête. Pas les couilles. Ça sert, mais pas pour faire de la politique, mais en Italie.
Berlusconi fait la politique.
On fait la politique avec le bordel, avec des prostituées de Berlusconi sont devenues conseillers régionales, sont
ministres.
On a des écoutes téléphoniques où la ministre parle des prestations sexuelles du premier ministre. Et on sait tous. Bon, alors, Fahrenheit 451 est le niveau plus dur, mais il y a une censure morbide, il y a une censure souple qui est la plus dangereuse, parce que quand il y a une censure nette, les gens essaient de se révolter. Quand il y a une censure souple, les gens ne savent même pas qu'il y a une censure. Il y a une censure à partir des écoles. Certains livres n'arrivent pas aux écoles. Mais il faut penser à autre chose. Il faut penser au foot, il faut penser aux jeunes femmes. Je sais que quand les Français arrivent en Italie, regardent la télé et disent « Mais qu'est-ce que c'est toutes ces jeunes femmes déshabillées ?» Mais c'est ça, la télé, la politique. On a vraiment... tout égalisé, mais au niveau plus bas, le plus bas. Et alors c'est ça le dégoût pour eux, parce que c'est pas vrai que les Italiens ne méritent pas Berlusconi. Les Italiens méritent Berlusconi, parce qu'ils l'ont voté depuis 20 ans, parce que...
Et ils le voteront.
Ils le voteront encore. Et quand les journalistes vont interviewer les ouvriers... à propos des scandales sexuels de Berlusconi, mais ça n'est pas sa vie privée. Une prostituée mineure, une prostituée de 16 ans, ça ne relève pas de la vie privée, ça relève de crime, ça relève de la justice. Et les gens, les femmes, les ménagères au marché qui disent à la télé, c'est mieux ça que PD. Bon, et c'est, alors nous, on mérite, nous, les Italiens méritent Berlusconi, parce que les Italiens sont comme Berlusconi. Mon père a le même âge de Berlusconi, et il me dit, tu vois, il est encore bien, il arrive encore à taper des jeunes femmes.
Mon père aussi.
Bon, et c'est ça. Et on n'arrive même pas à faire de la politique en famille.
Non, on dispute.
Je parlais de Pasolini qui avait fait quand même ce même constat là, il y a quand même bientôt 40 ans maintenant. Mais lui, il parlait aussi de la luce, de la luciole, de la lueur. Il reste quand même un petit peu de lueur en Italie, de cette luce, de cette luciole.
Là, oui.
Vous savez, il y a. Chaque fois que je fais un raconte, une lecture, une présentation de livre, il y a toujours, finalement, pour notre chance, quelqu'un qui évoque Pasolini. Et c'est bien, c'est très bien. Et surtout, il y a des gens qui disent, mais aujourd'hui, Pasolini, s'il était encore là, qu'est-ce qu'il écrivait, qu'est-ce qu'il disait, non? Et moi, je crois que c'est mieux que Pasolini n'est pas là, pour lui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, même Pasolini n'avait plus de mots à disposition. Et c'est vrai que Pasolini avait déjà prévu tout ça. Parce que dans ce livre où il y a le texte que vous citez, il disait exactement ça. Il parlait de l'homologation, de la télévision, du pouvoir de la télévision, des massacres d'État qu'il y en a eu. Et donc, et en même temps, je ne sais pas si aujourd'hui Pasolini avait la possibilité d'écrire ce qu'il écrivait dans la première page du Corriere della Sera. Parce que les écrivains aujourd'hui dans le Corriere della Sera, bon, moi j'écris dans le Corriere della Sera, mais dans les suppléments de la Venezia, pas dans la première page du Corriere della Sera. Je ne suis pas Pasolini, naturellement, bien sûr. Mais je crois que. C'est totalement différent l'Italie. Hein?
Est-ce qu'il reste une lueur
d'espoir?
D'espoir? Non.
Non, même.
Alessandro a parlé des femmes. Non? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, dans ces jours-là en Italie, moi je crois que toutes les femmes italiennes devaient s'élever, non? Prendre un train, une bicyclette, une vélo et aller devant la maison de Berlusconi à dire non, non. Et les femmes, il y a des femmes qui, il y a la femme qui a dit Alessandro, il y a une femme qui a dit ah dommage que ma fille n'a pas été appelée par Berlusconi dans ces fêtes. Vous savez, alors là, je ne vois pas une petite lumière, je ne vois pas une lueur en effet. Je vois pas, mais j'espère de me tromper. Mais...
Tu sais, et quand une petite lumière, ça sert, pour continuer dans la métaphore, ça sert quand il y a des masses qui cherchent un point pour se rassembler. Une lumière dans le noir va nous guider vers... Mais quand les gens n'ont pas envie de chercher cette lumière-là, alors la petite lumière, ça sert peut-être en Tunisie, où les gens avaient vraiment envie de changer. Et alors, ça sert la lumière pour dire, c'est là qu'on se trouve pour changer. Ce sont là les principes sur lesquels nous travaillons pour changer. Le travail de Berlusconi, le travail de sa dictature médiatique, a complètement saccagé l'Italie de ses valeurs morales. Il a saccagé même l'économie, mais il n'y a plus une moralité. C'est ça, c'est une crise morale totale. Et alors, on peut donner l'exemple, mais Pasolini, ça ne servirait à rien aujourd'hui. Il y a Saviano, qui est le corrispettif plus ou moins de Pasolini, mais on se contente de faire des groupes sur Facebook et de dire on est 5000
Mais ça, ça se passe dans tout le monde. L'engagement social s'est transformé en engagement électronique. On vote sur Facebook et on est content. On dit j'ai fait mon devoir. Mais en Italie, je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Une révolution, une épidémie, une bombe atomique.
L'invasion de la France.
Oui, si vous voulez. Surtout nous, à Turin, on a toujours dit, on déclare la guerre à la France ou à la Suisse. On est à une soixantaine de kilomètres, soit de la France, soit de la Suisse. On déclare la guerre. Après deux jours, ils nous ont envahis jusqu'à... Et nous sommes
sauvés.
Nous sommes maintenant français ou suisses. Sinon, on préfère le chocolat ou la bouillabaisse. Et alors, si vous voulez nous envahir, nous ne faisons pas de résistance.
Nous, on ne peut pas parce que nous, on a l'Autriche. Qui...
Non.
Comme vous savez, historiquement.
Si vous voulez venir à Turin.
Vraiment désolé, on clôt cette discussion, mais elle peut encore se prolonger. Merci à vous, les festivités continuent. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Et plaisir, hein. Bravo.
Merci pour cette occasion que vous nous avez donnée de parler mal de notre pays. Ça nous soulage.
Pour la millésime fois.
C'était Conversation al dente avec les deux auteurs italiens Roberto Ferrucci et Alessandro Perissinotto. Ces conversations en public étaient animées par Hervé Delouche, écrivain, et Martine Laval, journaliste à Télérama. Ces conversations ont été enregistrées le 22 janvier à Calais lors de la manifestation littéraire, populaire et festive Entre les lignes, organisé par le Chanel. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9. Les dernières minutes de Tumulte musical. Roy Paci et Aretuska.
Gota peixe, só que é bacalhau. E cantou a Catarese. E cantou a Vassanese. E cantou a Ustanese. A Mancina e Gassadella. Bato alle figurine. E perciò me veio per a volta. E poi me faccio sempre Messina. Reggio Messina. Vem tornare sempre una modella. Vi cantare dura. E cantou a Giapponese. E cantou. Subito come spacca di aluvia.
ghiaccio. Me peglio per la volta e poi me faccio sempre Messina Reggio, Reggio Messina. Per tornare sempre una motella per cantare allora gli canto. Siciliano gli canto, palamadano gli canto. Se da Gusano sono distinto mi sto tromuno da sopone.
Pacci, extrait de l'album Bacciamo le mani. Pascal Comolade, extrait de Psychotic Musical, The Blank Invasion of Schizophrenic Bikinis. Atelier Grand Délire. Thank you.
this particular war has now crossed the wide and mighty Atlantic. With no more rhyme or reason or objective, just the usual moral antics. Though it's preached as absolute and the ink has yet to dry. Anybody thought to stop and think and ask that silly question why? Compared to the ravages of alcohol and tobacco, our nuclear warheads, our political debacles, the violence in our families and the futures of only uncertainties, poverty on the rise and forever looming, eternal encouragement for those habit-forming progress, consuming our health or lack of it, profiting a lucky few. Reflection that today's evils are much worse than what's forbidden here to mention, and it may be our escape from a future we too clearly behold. What are we running from? Is this life so goddamn cold? Subjected to some pseudo-rehabilitation. No, I can't see the purpose in this needless incarceration.
Close ce tumulte musical à nouveau avec Pascal Comolade. fin du magazine Tumult sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Tumult, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h et sur le net radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.